On dit que les hommes forts sont ceux qui savent reconnaître leurs torts. Il en est de plus forts peut-être qui ne les reconnaissent jamais. Robert appartenait à cette seconde espèce. Il rejetait toute faute sur les autres, morts et vivants. Sur Philippe le Bel, Enguerrand, Mao, sur Philippe de Valois, Eudes de Bourgogne, le chancelier Sainte-Maure. Et d'étape en étape, il ajoutait à la liste de ses ennemis sa sœur de Namur, son beau-frère de Hainaut et Jean de Luxembourg, et le duc de Brabant. À Bruxelles, il recruta un avoué véreux nommé Huy et son secrétaire Berthelot. C'était par des gens de procédure qu'il commençait à remonter sa maison. À Louvain, l'avoué Huy lui dénicha un moine de mauvaise mine et de douteuse vie, frère Henri de Sagebran, qui s'y connaissait davantage en envoûtement et pratique satanique qu'en litanie et œuvre de charité. Avec frère Henri de Sagebran, l'ancien pair de France, souvenant des leçons de Béatrice d'Hirson, baptisa des poupées de cire et les perça d'aiguilles en les nommant Philippe, Sainte-Maure ou Mathieu de Tri. Et celle-là, vois-tu, soigne-la bien. Perce-la depuis la tête tout le long du corps, car elle s'appelle Jeanne, la boiteuse reine de France. Ce n'est point vraiment la reine, c'est une diablesse. Il se fournit aussi d'une encre invisible pour écrire certaines formules qui, tracées sur un parchemin, procuraient le sommeil éternel. Encore fallait-il que le parchemin fût glissé dans le lit de qui l'on voulait se débarrasser. Frère Henri de Sagebran, chargé d'un peu d'argent et de beaucoup de promesses, parti pour la France, tel un bon moine mendiant, avec sous son froc une grosse provision de parchemin à dormir. Gilles Edenel, de son côté, racolait des meurtriers à solde, des voleurs par vocation, des échappés de prison, gaillards à gueule basse, auxquels le crime répugnait moins que le travail à la journée. Et quand Gilet en eut fait une petite troupe bien instruite, Robert les envoya au royaume de France avec mission d'agir de préférence pendant les grandes réunions ou fêtes. Les dos offrent au couteau des cibles faciles quand tous les yeux sont tournés vers l'hélice, ou toutes les oreilles tendues pour écouter prêcher croisade. À courir les routes, Robert avait maigri. La ride s'enfonçait davantage dans les muscles de sa face, et la méchanceté des sentiments qui l'animaient du réveil au soir et jusque dans ses rêves avait donné à ses traits leur expression définitive. Mais en même temps, l'aventure lui rajeunissait l'âme. Il avait l'amusement de goûter en ces pays nouveaux à des nourritures nouvelles, à des femmes nouvelles aussi. Si Liège l'expulsa, ce ne fut pas pour ses méfaits anciens, mais parce que son gilet lui-même avait transformé une maison louée à un certain sieur d'Argenteau en vrai repère de folieuse, et que le bruit qui s'y faisait gâtait le sommeil du voisinage. Il y avait de bons jours, il y en avait de mauvais, comme celui où il apprit que le frère Henri de Sagebran, avec ses parchemins à dormir pour l'éternité, s'était fait arrêter à Cambrai, et cet autre jour où l'un de ses meurtriers à solde reparut pour lui annoncer que ses compères n'avaient pu les passer Reims et moisissaient à présent dans les prisons du roi Trouvé. Puis Robert tomba malade, de la plus sotte façon. Étant réfugié dans une maison en bordure d'un canal où se déroulaient des joutes d'eau, la curiosité lui fit passer la tête jusqu'au col à travers une nasse à poissons qui masquait la fenêtre. Il se poussa si bien qu'il ne put se retirer qu'après de longs efforts, en s'arrachant le cuir des joues au grillage de la nasse. L'infection se mit dans les écorchures, et la fièvre bientôt le saisit, dont il grelotta 4 jours, tout près de trépasser. Dégoûté des marches flamandes, il se rendit à Genève. Traînant ses chausses le long du lac, ce fut là qu'il apprit l'arrestation de la comtesse de Beaumont, son épouse, et de leurs 3 enfants. Philippe VI, par représailles contre Robert, n'avait pas hésité à enfermer sa propre sœur, d'abord au donjon de Nemours, puis à Château-Gaillard. La prison de Marguerite. Vraiment, la Bourgogne prenait bien sa revanche. De Genève, voyageant sous un nom d'emprunt et vêtu comme un quelconque bourgeois, Robert gagna Avignon. Il y resta 2 semaines. Cherchant à intriguer pour sa cause. Il trouva la capitale de la chrétienté débordante de richesses et de plus en plus dissolue. Ici, les ambitions, les vanités, les vices ne s'adoubaient pas d'une cuirasse de tournois, mais se dissimulaient sous des robes de prélat. Les signes de la puissance ne s'étalaient pas en harnais d'argent ou en aumes empanachées, mais en mitres incrustées de pierres précieuses, en ciboires d'or plus lourds que des hanaps de roi. On ne se défiait point en bataille, mais on se haïssait en sacristie. Les confessionnaux n'étaient pas sûrs, et les femmes se montraient plus infidèles, plus méchantes, plus vénales que partout ailleurs, puisqu'elles ne pouvaient tirer noblesse que du péché. Et pourtant, nul ne voulait se compromettre pour l'ancien pair de France. On se rappelait à peine l'avoir connu. Même dans ce bourbier, Robert apparaissait comme un pestiféré, et la liste de ses rancunes s'allongeait. Toutefois, il eut quelque consolation à constater, en écoutant les gens, que les affaires de son cousin Valois étaient moins brillantes qu'on eût pu le croire. L'Église cherchait à décourager la croisade. Quelle serait, une fois Philippe VI et ses alliés embarqués, la situation de l'Occident laissée à la discrétion de l'empereur et du roi anglais? Si jamais ces deux souverains venaient à s'unir, déjà le passage général avait été reculé de 2 ans. Le printemps de 1334 s'était achevé sans que rien ne fût prêt. On parlait maintenant de l'année 36. Pour sa part, Philippe VI, président lui-même une assemblée plénière des docteurs de Paris sur la montagne Sainte-Geneviève, brandissait la menace d'un décret d'hérésie contre le vieux pontife, âgé de 90 ans, si celui-ci ne rétractait pas ses thèses théologiques. D'ailleurs, on donnait la mort de Jean XXII pour imminente, mais il y avait 18 ans qu'on annonçait cela. « Restez vivant !» se répétait Robert. « Voilà toute l'affaire. Durez pour attendre le jour où l'on gagne. »